Honte noire, deuxième partie de l'émission. On a gardé le suspense, on a une émission de polar. Donc Jacques, tu vas quand même nous dire le nom de ce morceau.
Ah, Voodoo Child, pardon.
Ah, mais ça y est, tu es parti dans l'Ouest américain.
Ah oui, tout à fait, oui, j'étais déjà parti.
Voilà, donc une superbe couverture avec le soleil couchant sur Monument Valley. Je laisse Jacques nous parler de ce livre.
Voilà, c'est un roman de Anne Lerman qui s'appelle Le Rocher, très beau titre, Le Rocher avec des ailes. Il est paru aux éditions Rivage et il est traduit par Pierre Bondil. Donc Anne Lerman, c'est la fille de Tony Lerman, qui est célèbre pour avoir créé la saga de Polar dans la police Navajo, avec au début Jolly Horn, puis Jim Shea. Ça se passe dans la région des Four Corners, donc c'est entre le Nouveau-Mexique et l'Arizona.
Je précise que tous les romans de Tony Lerman sont publiés chez Rivage et qu'on les trouve dans la collection Poche Rivage Noir.
Voilà, et que maintenant on peut en plus les lire dans l'ordre chronologique. Donc en fait, ils ont été publiés en France entre 1986 et 2008, la date où Tony Lerman est parti rejoindre Le Rocher avec des ailes, probablement. Et quelques années plus tard, sa fille Anne a repris les personnages de son père et continué la série avec un premier roman qui était paru en 2014. J'avoue qu'en fait, à l'époque, j'avais pas été tenté de le lire, craignant qu'elle ne soit pas à hauteur de son père, un peu comme pour Santonio. L'apparition de ce roman, celui dont je vais vous parler ce soir, donc Le Rocher avec des ailes, je me suis laissé tenter, en fait, comme le disait Corinne, parce que ça se passe à Monument Valley et que l'endroit est tellement beau, je me suis dit comment elle va traiter, comment elle va nous le raconter. Et en fait, il m'a fallu que quelques pages pour être convaincu que la fille était plus que bonne et qu'elle maîtrisait parfaitement les personnages et l'ambiance des personnages de son père, tout en y apportant sa petite touche. Donc ça commence avec un couple, Bernie Manuelito, qui est flic, et son mari, c'est le fameux Jim Shea. Tous les deux, ils sont membres de la police Navajo de Shiprock. Donc ceux qui ont déjà lu, ils le savent déjà.
Oui, Bernie apparaît déjà dans les précédents.
Tout à fait. Ça fait 2 ans là, qu'ils sont mariés. Et donc, tous les deux, ils vont passer leurs premières vraies vacances depuis leur lune de miel. Pas très loin, mais enfin à quelques heures de route quand même, non loin de Monument Valley. Et comme évidemment on est dans un polar, les vacances, ça ne va pas en être. Bernie va retourner, son petit nom c'est Bernadette en vrai, Bernie va retourner voir sa mère, et Jim va bosser sur place à Monument Valley pour la police locale qui intervient sur le tournage d'un film de zombies dans ce lieu si magique où en fait, je vous le rappelle si vous ne savez pas, c'est là où on a tourné tellement de westerns avec John Ford, John Wayne.
Western de John Ford avec John Wayne.
Voilà. Et il y a même un western de John Wayne que John Ford a filmé aussi, parce que John Wayne, il est occupé, mais ça n'a rien à voir. Donc, je disais, les vacances ne vont pas en être. Donc, Bernie va retourner voir sa mère et Jim s'occupe donc de ce film de zombies. Et évidemment, il ne va pas faire que faire la police. Il va soulever, disons, plusieurs lièvres, dont un assez grave pour tout le monde, et particulièrement pour les Navajos, une violation de sépulture. Il va découvrir aussi quelques petites magouilles financières de l'équipe de tournage. Bernadette, elle, va profiter de son retour. Bon, elle va s'occuper de sa mère, de sa sœur, mais elle va profiter de son retour pour poursuivre ses investigations sur un type un peu suspect qu'elle avait arrêté quelques jours auparavant. Une enquête qui est passée au FBI, et lequel FBI fait plutôt obstruction aux demandes d'informations de la fliquette. Alors ces deux flics, donc Bernie et Jim Shea, vont être aidés par Jolly Horn. Jolly Horn, c'est le premier personnage de Tony Lerman.
Il est plutôt jeune.
Non, c'est le lieutenant. Il se remet lentement d'une blessure par balle. En fait, donc je disais, il est lieutenant de la police Navajo, il est aujourd'hui à la retraite. Et donc, il sert un peu de consultant détective privé. Et là, il va aider ses deux amis, bien qu'étant pas très, très en forme. Alors, les deux histoires sont très bien menées. Anne Lerman a vraiment un grand talent pour nous décrire ces contrées sauvages, assez désertiques, il faut bien le dire. Elle met aussi en avant les problèmes sociaux des Navajos dans la réserve, l'alcoolisme, c'est récurrent, et surtout le manque de travail et de perspectives pour les jeunes, peut-être qui génère le précédent. Et elle évoque aussi, là, dans celui-là, des problèmes écologico-économiques ou économico-écologiques. Alors, dans ce roman-là, c'est l'installation de panneaux solaires. Alors ça, c'est sûr que économiquement, c'est hyper rentable. C'est une manne pour les revendeurs ou pour les installateurs. Mais c'est pas forcément un bienfait pour les habitants des Pueblos. Elle raconte aussi une très belle histoire d'un collier. Un collier navajo, mais bon, ça, je vous laisse le découvrir, mais c'est vraiment très, très beau. Alors, par rapport aux écrits de son père, les personnages, maintenant, ben, ils ont des téléphones portables, ils ont Internet. Évidemment, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ben, la connexion n'est pas toujours optimum. Une aussi, une différence essentielle, c'est les rapports qu'entretient Bernadette avec sa jeune sœur et sa mère. Il y a vraiment une touche... De féminité, c'est un peu, c'est presque péjoratif, hein, parce que c'est une femme, ça serait une touche de féminité.
Oui.
N'empêche que dans un monde qui est quand même relativement masculin, ça donne
une autre ambiance.
Une autre ambiance, voilà. Puis voilà, elle parle toujours quand la mère donc est détentrice de savoir comme ça, c'est très intéressant. Elle nous le fait revenir, c'est très très bien. Et du coup, en fait, et ben après avoir fini sur ce roman-là, j'ai enchaîné sur celui que j'avais négligé, qui s'appelle La fille de la femme araignée.
Qui vient de reparaître en Rivage Noir.
En Rivage Noir, en poche, donc. Et c'est quasiment aussi bien que celui-là. Il a juste, allez, disons, en étant sévère, les défauts d'un premier roman, c'est-à-dire que Annie Lorman, elle veut un peu trop bien faire, un peu trop en dire, alors que bon, il y a des, voilà, elle aurait pu. Un peu couper certains passages, mais voilà.
Ça doit être dur de reprendre
le
fil narratif de son père,
voilà,
quand même.
Et du coup, maintenant, dans le deuxième, elle s'est complètement appropriée et c'est impeccable.
Donc, on va rappeler Annie Lerman.
Le rocher avec des ailes, paru chez Rivage.
La traduction.
Et de Pierre Bondil. Et celui dont je parlais, c'est La fille de la femme araignée, donc le premier, qui est en Rivage Noir et qui est aussi traduit par Pierre Bondil et Johanna Leray.
Voilà, un petit peu de musique.
Un petit peu de musique. Alors, comme dans ce roman, c'est les deux romans, Bernie boit, mais alors des quantités presque industrielles de Coca-Cola, et ben on va écouter un morceau de Beth Hart, extrait de son dernier et excellent album, qui s'appelle Coca-Cola.
Et voilà, donc c'était Buff Art, pardon, Coca-Cola.
Et l'album s'appelle Fire on the Floor et il est tout de ce niveau, donc allez-y.
Frédéric Prieux, bonsoir.
Bonsoir, ami buveur de Coca-Cola.
Pas du tout, mais pas du tout. Ravi de vous retrouver, surtout pour cette dernière émission. Et oui. Puis je vous laisse la parole tout de suite.
Merci, Corinne et Jacques. Oui, ça faisait bien longtemps. Donc, chers amis, il était temps que je vous retrouve. Et surtout, que je vous parle enfin d'un de mes personnages préférés, qui fête cette année ses 40 ans et qui est toujours aussi en forme. Et puis, il a intérêt à être en forme, vu son métier. Et qui s'appelle Joseph Dredd, plus connu des citoyens. Oui. Sous le nom de Juge Dredd, alias
Judge avec l'accent Dredd,
en VO. Pardon ?
Avec l'accent.
With the accent, yes. Judge Dredd en VO, car Dredd, c'est un héros qui est né d'une série en Angleterre, créée par John Wagner et Carlos Escara, dans les pages du magazine 2000 AD, où AD signifie, je crois, After Destruction ou After Disaster. Enfin, bref, toujours est-il que la Terre est en sale état et qu'il ne fait pas très bon y vivre. Et pourtant, c'est là que vivent des millions de citoyens, à Mega City One, où la justice est rendue par les juges qui sillonnent la ville, jugés sur des monstrueuses motos à la recherche du contrevenant. Il y en a plein des contrevenants. Alors ce qui est marrant, c'est François Angelier, vous voyez, de mauvais genre, qui a des scènes lectures, puisqu'il a lu Dredd, le décrit, je cite, parce que c'est assez marrant, comme un tenant du paladin médiéval, du shérif impavide, du justicier du futur, beauté et casqué, depuis la selle de sa moto-bunker, fait régner la justice à coups de laser dans les rues de Mega City One, mégalopole polluée de l'Amérique de 2099. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est polar ? Oui, c'est très polar, parce qu'on se retrouve dans une... C'est la justice, tout simplement, qui est rendue dans le futur, mais justice un peu expéditive. Et voilà, donc, de semaine en semaine, les lecteurs de 2000 AD ont découvert des récits de 5 pages, à chaque fois, noir et blanc, et découvraient le caractère implacable du personnage, son passé, et puis cette ville du futur où tout est interdit ou presque, et où les juges sont là pour vous remettre dans le droit chemin. Donc, c'est une série assez étonnante qui, graphiquement, au tout début, le personnage passant de main en main à cause du rythme hebdomadaire de publication, les dessinateurs se succédaient, que ce soit McMahon, Ian Gibson, John Cooper et Brian Bolland, un des meilleurs. Ils ont mis en place un univers assez fascinant, où d'ailleurs les tout premiers récits étaient assez graphiquement audacieux. Il y avait des planches sans cases, déstructurées, explosives, on peut dire, et on pouvait y voir une influence de Metal Hurlant, parce que les créateurs de la revue étaient des fans de Metal Hurlant, et voire même de Druillet, parce que certaines planches rappellent la mise en page de Druillet. Et c'est dans Metal que Dredd avait été publié d'ailleurs pour la première fois, quand on oublie les tout petits, les petits formats de l'époque des kiosques. Et voilà, et il y avait eu deux albums excellents. Et voilà, et je vous en parle maintenant parce que les éditions Delirium ont entrepris une réédition complète chronologique de toutes ces histoires noires et blancs des années 70-80. Et c'est une excellente chose, avec un excellent travail aussi, tout excellent décidément, excellent travail, éditorial, puisqu'il y a une longue préface, voilà. Et donc on peut rentrer dans la série par là, je vous le conseille, et on peut aussi rentrer par, je vous parlais d'un autre album qui s'appelle Démocratie, qui regroupe 3 longs récits, qui s'appelle America, Terror et Mega City Confidential, où là, dans le premier, qui fait 60 pages, on retrouve une jeune femme qui s'appelle America, donc, qui est engagée aux côtés des démocrates. Alors, c'est pas les démocrates de maintenant, ce sont ceux qui luttent contre le pouvoir totalitaire des juges. Donc, tout ça a évolué dans une Amérique où la liberté n'existe même plus du tout. Alors on dit pas que c'est l'Amérique, mais en fait c'est l'Amérique. Et elle va retrouver avec un ami d'enfance qui est devenu chanteur à succès, qui chante des gentils guimauves. En tant qu'America, ce récit de 60 pages quand même, qui est paru en 90, c'est une tragédie, une histoire d'amour avec en toile de fond la société ultra sécuritaire de Mega City
One. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que ça a des thèmes vraiment très polar, voire roman noir.
Oui, exactement. Démocratie, c'est 3 récits, c'est ça, c'est roman noir. Vous avez tout à fait raison, avec la cité, la corruption, voilà. Le récit qui s'appelle Terror, c'est guère mieux, puisque c'est une prof de sciences politiques qui se retrouve par hasard au cœur d'un attentat et qui en réchappe de justesse, et au lieu d'être un petit peu secourue, elle est plutôt, elle immédiatement soupçonnée par les juges d'avoir fomenté la chose parce qu'elle a, elle a croisé la route des terroristes. Et puis voilà, il y a une intrusion de plus en plus grande dans la vie des gens qui n'est pas sans nous rappeler quelques épisodes contemporains qui arrivent.
Excessivement contemporains même.
Voilà, et puis il y a une troisième histoire qui est du même acabit, qui met les citoyens en dessous de la justice, si on peut appeler ça de la justice. Donc c'est assez étonnant ces albums. Donc là c'est celui-ci, La Démocratie, c'est paru aussi chez Delirium cette année. Le dessin de Colin McNeil et les scénarios sont de John Wagner, le créateur de la série. Donc voilà, c'était pour vous parler. Je voulais vous parler essentiellement de cette série excellente qui date des années 70, mais qui reste. D'ailleurs, Judge Dredd existe toujours. Hein.
Il a été adapté au cinéma.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire.
Alors,
deux adaptations, une qu'on peut oublier, qui est avec Stallone, parce qu'il faut savoir aussi que Dredd, on ne voit pas son visage.
Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous avez vu son visage une fois?
Dans la BD, il n'y est pas. Il a une sale tronche, de toute façon, on le sait. Et il y a un deuxième album, un deuxième film qui s'appelle Dredd, tout court, sans le Judge Dredd ni Joe. Et celui-ci est beaucoup plus dans l'esprit de la série, avec des ruelles sombres. D'ailleurs, tout se passe dans un bloc. Toutes les histoires sont dans des blocs de béton, des immenses.
Il faut préciser que, en fait, on est dans une vision post-apocalyptique, parce qu'il s'est passé plusieurs désastres, et en fait, les sociétés se sont plus ou moins reconstruite.
Exactement, c'est comment on se refait la société dans son ensemble après soit la bombe, soit une catastrophe naturelle ou non naturelle d'ailleurs, et comment chacun peut s'en sortir. Donc il y a un aspect alors Dredd, je sais, Judge Dredd, c'est pas nouveau hein, comme série, mais il y a un aspect fascistoïde dans la série, qui est quand même largement contrebalancé par un humour second voire troisième degré ou xème degré, qui se retrouve dans les robots en fait qui sont tout le temps là dans la série. Dans la série des origines des années 70-80, un peu moins dans l'album Démocratie là, mais il y a ça, donc c'est un petit peu il tient un petit peu de l'inspecteur Callaghan, hein, notre ami Dredd. Donc voilà, bon, moi j'ai une tendresse toute particulière pour Judge Dredd, donc je voulais vous passer l'été avec ce brave Joe Dredd.
Alors Joe, on le retrouve donc en réédition. Oui. Une question de néophyte et qui va être la dernière question, c'est en un seul tome ou il y a plusieurs...
Alors, c'est assez compliqué à suivre, mais pour ce qui est de... Alors, il y a un volume qui s'appelle Affaires classées tome 1, mais là, ce sont des histoires de 5... des petites histoires de 5-6 pages, donc on peut les lire indépendamment toutes les unes des autres. Mais il y a beaucoup de... Il y aura 3 volumes de 250 D'accord. pages, et il y a des one-shots, et en plus, il y a 2 autres éditeurs que Delirium qui continuent à éditer Judge Dredd, le Judge Dredd américain, parce qu'il y a le Judge Dredd anglais, il y a l'américain, et le Judge Dredd qui est des croisements, alors là, plus cinéma avec Predator, Alien, ça c'est plus anecdotique, intéressant, mais il faut vraiment être fan. Je vous conseille plutôt de lire, retrouver le Judge Dredd noir et blanc de Affaires classées, qu'on peut prendre dans l'ordre.
Alors, l'affaire va être classée tout de suite, je suis désolé de vous interrompre, Frédéric, mais on est à la fin de l'émission. Je voulais quand même pas passer l'émission sans vous dire au revoir, vous remercier beaucoup, on vous retrouve sur votre blog,
oui.
Et puis à très vite, passez un bel été.
Oui, vous aussi.